Vous êtes sur RTL.
Landru, que sont devenus Madame Cuchet et son fils, Madame Labordeline, Madame Éon, Mademoiselle Bablet, Madame Guilin, Madame Jaune, Madame Buisson?
Tiens, mais c'est vrai, que sont-elles devenues? J'espère qu'elles sont heureuses.
Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'heure du crime. Émission légèrement raccourcie car il y a ce soir une soirée foot sur RTL, moment que nous allons partager, si je puis dire, avec l'homme aux 283 femmes, le Barbe Bleue de Seine-et-Oise, autant de surnoms que les chroniqueurs de l'époque avaient donné à Henri Désiré Landru. Landru, assassin emblématique, entré dans l'histoire criminelle. Landru, l'un des premiers tueurs en série imaginatif, escroc séduisant, ayant mis au point un piège fatal pour attirer à lui les femmes, leur extorquer leur fortune et les faire disparaître à tout jamais. La justice retiendra 11 disparitions qualifiées de meurtres. Landru, condamné à 52 ans à la guillotine le 25 février 1922. Si j'ai décidé de revenir ce soir sur l'histoire de Landru, c'est que bien des secrets subsistent autour du personnage. Comment ces crimes étaient perpétrés? Comment faisait-il disparaître des corps jamais retrouvés? Comment réussissait-il à créer cette attraction fatale auprès de ces femmes qui voulaient refaire leur vie? Et puis parce qu'un livre qui paraît demain aux éditions du Rocher a capté notre attention, Landru, l'élégance assassine, donne en partie les clés du mystère Landru qui se cachait derrière ce petit homme chauve aux sourcils broussailles. Ailleurs, on va en parler avec son auteur Bruno Fulini. Landru, la mécanique intime d'un assassin, ce soir au programme de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur le plus célèbre des assassins, Landru, accusé d'avoir tué 10 femmes et le fils de l'une d'elles, même si ce décompte macabre restera à tout jamais incomplet. En ce mois de février 1914, Jeanne Cuchet, veuve et mère d'un fils de 16 ans, est une femme heureuse. Elle a fait la rencontre d'un certain Raymond Diard qui est en train de changer son existence. Il doit avoir la cinquantaine, une barbe taillée en pointe, les yeux noirs, vifs et intelligents. Monsieur Diard est attirant. Une voix de baryton dont il se sert pour interpréter des airs de bel canto. Toujours une gentille attention, des chocolats, un bouquet de fleurs. Jeanne Cuchet est prête à épouser celui qui va changer son existence. Même si sa sœur n'aime pas beaucoup cet homme, elle le prend pour un chasseur de veuves. Après avoir découvert chez lui des lettres de femmes répondant à son annonce qui passe dans les journaux, Monsieur sérieux désire épouser veuve ou femme incomprise entre 35 et 45 ans. Peu importe, Jeanne Cuchet et son fils s'installent avec Monsieur Diard dans la villa The Lodge à Vernouillet, près de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Choix fatal. Courant 1915, la mère et son fils disparaissent du paysage. Henri Désiré Landru, alias Monsieur Diard, rassure ses proches voisins en racontant un départ pour l'Angleterre. À Vernouillet, les femmes attirées par les petites annonces émanant d'un veuf aisé, ce qui est totalement faux, vont continuer à venir se perdre et disparaître. Après Jeanne Cuchet, Thérèse Labordeline, séparée d'un mari aubergiste, puis Angélique Gulin, s'évanouissent dans la nature. À chaque fois, Landru récupère les meubles, les objets de valeur au domicile de la disparue. Il commence à attirer la curiosité, il n'aime pas ça, il va donc déménager, s'installer à Gambé, la maison de Barbe Bleue, là où il perpétrera la majeure partie de ses crimes. Bonsoir Bruno Fulini.
Bonsoir.
Vous êtes historien, écrivain et vous publiez demain aux éditions du Rocher le livre Landru, l'élégance assassine. Merci de nous en donner la primeur ce soir dans l'heure du crime. Bruno Fulini, qui est donc ce Henri Désiré Landru qui commence à tuer mais a déjà un passé judiciaire?
Oui, Landru est un escroc, avant d'être un assassin. C'est un escroc, en fait, c'est un homme qui a peut-être un peu raté sa vie. Lui, il s'était rêvé ingénieur, mais ses parents, des pauvres, ne pouvaient pas lui payer de longues études. Il a pourtant de multiples talents, des talents de mécanicien, des talents de dessinateur. Il écrit très bien, sans faute d'orthographe, il a plein de qualités. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il va imaginer, en 1899, il a 29 ans, il va imaginer un vélo à moteur. Il a conscience, en 1899, qu'on a besoin de transport léger.
Vous avez découvert ça dans votre ouvrage.
Oui, j'ai interrogé tout simplement l'Institut National de la Propriété Industrielle, l'INPI. Les archivistes ont cherché et nous avons retrouvé le brevet que Landru a déposé en 1899. Alors c'est extraordinaire parce qu'il y a ses dessins, il dessine très bien de sa main. On voit les plans, les croquis, les schémas. Et puis un texte très bien rédigé où il explique tout l'intérêt de cette invention.
Alors il y a cette invention qui ne va sans doute pas prospérer, en tout cas il est un inventeur dans l'âme, mais vous le disiez au début de votre intervention, c'est un escroc.
Alors en fait, cette invention,
presque maladif, hein.
Cette invention va le conduire à l'escroquerie. C'est un inventeur, mais il n'arrive pas à la développer au plan industriel. Donc il va l'utiliser pour susciter des associations, pour essayer de trouver des investisseurs. Sauf que ces investisseurs se font purement et simplement arnaquer. Il disparaît avec les fonds confiés. Et puis il se rend compte qu'il a un succès particulier auprès des dames. Quand c'est une dame qui possède un petit capital, ah, là, ça marche très bien parce qu'il a l'art, effectivement, du petit compliment. Il vient avec un bouquet de fleurs, il présente bien, il inspire confiance aux dames et il se dit, tiens, et si je passais à l'escroquerie au mariage ?
Et pourtant, il n'est pas très beau, Landru, parce qu'on dit toujours un séducteur, un tombeur, etc. Des dizaines de femmes qui...
Alors là aussi, il faut réviser nos idées sur Landru. Nous connaissons le Landru du procès. Il a plus de 50 ans, il a passé 2 ans et demi en prison, puisqu'il
il
est
a perdu
arrêté...
Tout ses cheveux à cette
Donc
époque.
Il est chauve, il est un petit peu tendu, il risque quand même sa tête. Et il dira même qu'il regrette de ne pas avoir plusieurs à en proposer.
Plusieurs
voilà. Mais en couverture du livre, nous avons mis une photo beaucoup moins connue de Landru, jeune homme. Et là, on voit quelqu'un de tout à fait séduisant, très soigné, avec ce qu'on appelle un toupet, c'est-à-dire une petite mèche de cheveux qui remonte un peu à la Tintin sur le haut du crâne, une moustache qui remonte, une petite barbiche bien taillée, et puis une grande élégance avec un nœud lavalière. Il est très soigneux de sa personne, à la fois pour séduire, sans doute aussi pour paraître beaucoup plus riche et beaucoup plus installé qu'il ne l'est en réalité.
Landru, séducteur, impénitent, sans doute davantage criminel qu'inventeur, conquête après conquête, Landru va faire prospérer son petit atelier du crime parfait. À Gambé, les femmes disparaissent sans laisser de traces, sans témoin, sans que ne soit jamais identifié leur chevalier servant, faux veuf, aux 90 pseudonymes. Landru, un tueur en série bien sous tout rapport. Insoupçonnable, c'est le dossier de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime, consacrée ce soir à l'un des tueurs en série français les plus célèbres, Landru. Un siècle après, il nous intrigue toujours tant le dossier n'a pas livré tous ses secrets. En ces années 1915, 16, 17, 18, ces années de guerre où bon nombre de maris ont perdu la vie dans les tranchées, Henri Désiré Landru n'a pas de mal à trouver des femmes, des veuves ou des épouses délaissées. Il a loué la villa de Gambé sous le nom de Dupont et utilise d'autres identités pour ses rencontres. Anne Collomb, 39 ans, à 8000 francs d'économie. Le 27 décembre 2016, elle s'apprête à fêter le nouvel an avec son futur époux, puis disparaît. Avril 2017, c'est au tour d'André Bablé, rencontré dans le métro, de s'évaporer. De la fumée noire s'échappe de la cheminée de la jolie villa. Landru est charmant, beau parleur, irrésistible, très poli. Personne ne pourrait soupçonner qu'il est le maître d'une entreprise criminelle quasiment démoniaque.
Madame Jaume, rencontrée en 1917 grâce à une petite annonce parue dans l'Écho de Paris, lui pose un premier problème. C'est une catholique pratiquante, vertueuse. Elle refuse de se rendre dans la maison de cet homme qui lui promet le mariage. Le 27 novembre, Madame Jaume et Landru iront donc prier ensemble au Sacré-Cœur pour bénir leur future union. Madame Jaume ne ressortira jamais de la villa de Gambet. Bruno Follini, vous êtes donc l'auteur de ce formidable Landru, l'élégance assassine dont on parle ce soir, qui va paraître demain, aux éditions du Rocher. Pourquoi Landru va-t-il être aussi longtemps non repérable, hors des radars de la police ?
N'oublions pas, vous l'avez dit d'ailleurs, que nous sommes pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord que la police a d'autres chats à fouetter parce que pendant la guerre, la police, et en particulier la police parisienne, s'occupe surtout de contre-espionnage, assez peu de délinquance. Mmh. Ensuite, parce que, au fond, des femmes qui disparaissent, ça fait un petit peu sourire. On se dit, oui, oh, elle a trouvé un galant, elle est en train de mener une vie joyeuse quelque part. On n'accorde pas une grande importance aux signalements qui sont faits par les familles. Et puis, notre Landru, comme il a déjà derrière lui une condamnation pour escroquerie, fait très attention de ne pas se faire prendre. Il opère sous plein de noms différents. Cuchet, Frémiet, Guillet,
oui, bon,
Diard, il y en a un très grand nom, même un nom à particules. Habilement, il fait savoir à ses interlocuteurs qu'il est né dans des départements, quel dommage, qui sont de l'autre côté du front. Donc il est absolument impossible de vérifier. On ne va pas demander aux Allemands d'accéder au registre d'état civil. Et donc il prétend qu'il est né à Rocroi, dans les Ardennes, ou dans d'autres lieux éloignés de Paris. Ce qui fait qu'on est bien obligé de le croire. Et il opère dans l'impunité la plus totale pendant 5 ans, de 1914 à 1919.
Mais tout de même, il y a un art, alors vous parlez de ces fausses identités, mais il y a un art aussi de la dissimulation dans le crime même, parce qu'on ne remarque rien.
Il y a aussi un point, c'est que Landru n'appartient pas à la pègre. Il n'appartient pas au monde du crime, il ne fréquente pas les mauvais lieux, il agit seul. Et ça, c'est très difficile, évidemment, de déceler d'abord un criminel qui agit seul, et en plus un criminel qui présente aussi bien. N'oublions pas que Landru, dans sa jeunesse, a été enfant de cœur, il a été sous-diacre, il est extrêmement poli, onctueux, gentil, en apparence, vraiment, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Qui va soupçonner ce garagiste, brocanteur, qui présente si bien.
Alors justement, votre sous-titre à ce Landru, c'est l'élégance assassine. Pourquoi avoir choisi ces mots qui sont loin d'être gratuits ? Parce que Landru n'emploie pas, par exemple, la contrainte pour séduire les femmes ?
Non, les femmes sont consentantes, elles se laissent séduire, y compris celles qui ont une certaine moralité, qui ont un petit peu peur de se jeter dans les bras de cet homme. Il procède par petites annonces, il va donc être en relation avec 283 femmes, relation épistolaire. Après, il fait le tri, il élimine celles qui ont une famille, celles qui ont des enfants, celles qui n'ont pas de patrimoine, ça c'est rédhibitoire. Et puis, celles qui l'intéressent, appelons-les ses cibles, on dira ses fiancées, eh bien, il va très bien les traiter, il va les charmer, il va consentir de petites dépenses qui vont évidemment leur faire plaisir, une petite attention, un petit bouquet, et puis de proche en proche, il va les attirer dans sa maison de campagne de Gambet avec des projets de mariage. Ce qui veut dire que lorsque certaines de ces femmes vont à Gambet, d'elles-mêmes, elles emportent leurs bijoux, leur argent, elles lui ont signé des procurations parce qu'ils doivent partir à l'étranger ou aux colonies pour une nouvelle vie. Elles partent pour une lune de miel, elles n'imaginent pas une seconde qu'elles vont finir aussi mal. Et d'ailleurs, on pense, et le policier qui a arrêté Landru écrit que vraisemblablement, il les tuait également sans violence. C'est-à-dire qu'il attendait qu'elles dorment profondément, peut-être même après leur avoir fait l'amour, et que là, doucement, subrepticement, il leur passait une cordelette au cou et il serrait. Parce qu'on a trouvé des cordelettes d'un type un petit peu spécial chez Landru, en divers points, qui accréditent cette thèse, car on n'a jamais trouvé de traces de lutte, ni même sur son corps à lui, de marques qui auraient pu témoigner d'une résistance quelconque.
Oui, et pas de cris non plus entendus dans le voisinage, hein, pas de heurts particuliers. Et on le rappelle, Bruno Follini, le but ultime de ces disparitions, c'est effectivement l'argent. On est toujours au cœur de l'escroquerie.
C'est là
et,
où...
Et il va faire même se créer une petite caverne d'Ali Baba, non, c'est ça? Avec des meubles, etc.,
oui.
Des antiquités.
Landru possède toutes sortes de lieux. Sa famille habite à Clichy, il a également un garage là-bas, il a plusieurs remises dans la région parisienne, plus la maison de Gambet, et un petit peu partout, il va stocker ce qu'il prend à ses victimes. Mais en fait, il leur prend tout, l'argent, les bijoux, mais aussi les meubles, et parfois même des objets extrêmement intimes. C'est ça qui va quand même semer un petit peu le doute quand il se prétend innocent, parce que, bon, que ces femmes soient parties les quitter ou soient parties vivre à l'étranger sans leurs papiers, sans leurs perruques, sans leurs dentiers, c'est difficile à croire. Mais lui va l'affirmer imperturbablement.
C'est trop long. Comment est-ce qu'il est choisi en un mot? Comment est-ce qu'il choisit ces femmes? Alors, sur Petite Annonce essentiellement, quelques rencontres aussi.
Surtout mais, sur Petite Annonce.
Mais quel est le profil type d'une victime de Landru?
Pour être admise à Gambet, il faut avoir un certain capital, il faut être un petit peu isolé, soit vivre vraiment seul, être très isolé, soit avoir rompu avec sa famille. Et Landru est capable d'agir pendant des semaines, des mois, pour fâcher une personne avec ce qui lui reste de famille et de proches, pour que, évidemment, il n'y ait pas trop de demandes après la disparition.
C'est ça, et pouvoir isoler sa proie en quelque sorte. Mais en dépit de son adresse, de son art de la dissimulation, de ses mensonges parfaitement organisés, la police va finir par rattraper ce Landru, qui, sans d'ailleurs un concours de circonstances, n'aurait peut-être jamais été arrêté. L'heure du crime, le dossier Landru, vous écoutez RTL, à tout de suite.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Il va rencontrer la sœur de l'une des disparues. Mmh. Il va rencontrer Mademoiselle Lacoste, qui est domestique chez un couple de bourgeois parisiens. Il est très mal reçu parce qu'elle ne comprend pas pourquoi un nouveau policier vient la voir, qui plus est sur son lieu de travail, alors qu'elle a déjà dit ce qu'elle avait à dire à la police. Elle le reçoit assez mal. Il y a une relation un peu compliquée qui se crée entre cette Demoiselle Lacoste et lui, mais il lui laisse son numéro de téléphone. Et peu de temps après... il reçoit un coup de fil. Et que lui dit Mademoiselle Lacoste? Le barbu, je l'ai vu. Parce qu'elle avait rencontré le prétendu fiancé de sa sœur avant la disparition.
Qui avait disparu
lui aussi, pas de trace. Et puis elle voit le même homme, accompagné d'une femme, dans un grand magasin de vaisselle de la rue de Rivoli, qui n'existe plus, qui s'appelait Au Lion de Faïence, devant la tour Saint-Jacques. Et donc elle essaye de le suivre, mais
alors ça c'est un hasard extraordinaire parce que effectivement grâce à cela l'inspecteur Belin va pouvoir le localiser et il habite à Paris.
Oui, c'est-à-dire que Landru a acheté un service entier, on ne sait pas encore d'ailleurs qu'il s'appelle Landru, il a acheté un service de vaisselle entier, il a laissé une carte de visite avec une adresse pour la livraison, on a l'adresse, 76 Rochechouart. Alors Belin s'y précipite, mais le suspect a sans doute, senti qu'il avait été observé, il est parti, il n'y a personne, et donc Belin va revenir régulièrement, tous les soirs, et interroger à chaque fois la concierge, et un soir, on lui dit, ça y est, il est de retour, il y a quelqu'un à l'étage.
Il est de retour. Alors, enquête qui va durer 2 ans et demi, un dossier de 7000 pages, 273 femmes qui vont être entendues. Comment, en quelques mots, comment est-ce qu'il se comporte, Landru, avec les enquêteurs et avec le juge qui va l'entendre?
Landru va enchanter les chroniqueurs judiciaires et le public, parce que comme c'est un homme éduqué, il va répliquer avec une espèce d'esprit
à l'instruction.
Déjà à l'instruction, il va opposer par exemple le mur de la vie privée. Chaque fois qu'on lui pose une question concernant ses relations avec ces dames, il le prend de haut. Chaque fois que un policier veut un petit peu l'intimider, lui, il explique que c'est à vous de prouver que je suis coupable, pas à moi de prouver que je suis innocent. Cherchez. Il joue comme cela avec les nerfs d'abord des policiers et puis des magistrats ensuite.
Le jeu du chat et de la souris. La France de l'après-guerre de 14, une France meurtrie et épuisée, ne va cesser de se passionner pour le feuilleton Landru, assassin hypnotique, et attendre son procès. Celui-ci s'ouvre le 7 novembre 1921 à Versailles, devant la cour d'assises. Procès à grand spectacle. spectacle qui fait les choux gras des journaux. Jamais Assassin n'a été aussi délicieusement attendu. Landru est une star que viennent observer des célébrités du moment, la chanteuse Miss Tinguette, l'acteur Jules Rému. Jusqu'à son exécution, il va recevoir plus de 4000 lettres d'admiratrices et pas moins de 800 demandes en mariage. Landru, défendu par un ténor du barreau, maître Mauro Giaferri. Il nie avec insolence et un incroyable humour tous les faits qui lui sont reprochés. Une fois, il s'exclame « Moi, j'ai fait disparaître quelqu'un, et bien ça alors, si vous croyez ce que racontent les journaux. Et une autre fois encore, si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte. » Bruno Follini, extraordinaire procès que celui de Landru, hein, qui va rester, comme on dit aujourd'hui, dans les annales judiciaires. Dans ce procès, une cuisinière. On a apporté là le fourneau de Landru. Alors, il faut nous en parler de cette cuisinière qui va capter toute l'attention du tribunal.
La cuisinière est même attendue par le public, parce qu'il y a 35 000 pièces dans le dossier, on étale tous les meubles qu'on a retrouvés chez Landru, le tribunal ressemble à une brocante, mais ça ne suffit pas, et le public réclame la cuisinière. Elle finit par être apportée, elle arrive entre deux gendarmes, il y a une photo célèbre où on a l'impression que la cuisinière est vraiment l'accusé ou la complice de Landru. Et alors c'est en fait une cuisinière assez décevante parce que c'est une petite cuisinière, une cuisinière pour une maison de campagne. Et il n'est pas pensable qu'on y ait brûlé un corps entier dedans. En fait, Landru appartient à cette aristocratie des assassins qu'on appelle les dépeceurs. C'est-à-dire qu'il n'a vraisemblablement brûlé dans la cuisinière que les parties reconnaissables de ses victimes, les mains, les têtes, et il a dispersé, dissimulé un petit peu partout les autres éléments du corps. Si on regarde les photos qui ont été prises dans sa maison de Gambet, en fait, il y avait une cave sous la cuisine. La cave était totalement équipée pour découper. Et puis, il n'avait plus que quelques marches à monter pour brûler ce qu'il voulait brûler ou charger dans sa camionnette, car il était motorisé, eh bien, les petits paquets bien préparés qu'il allait disséminer dans la nature. On a sondé les étangs, on a fouillé les forêts. On n'a jamais retrouvé de cadavre.
On n'a jamais retrouvé de cadavre. Est-ce qu'on trouve quelques reste, si je puis dire, dans la cuisinière?
Oui, on trouve des petits éléments, en particulier des dents ou des débris de dents. Les médecins légistes de l'époque considèrent qu'il s'agit de débris humains, ce que la défense va contester. Les moyens techniques, évidemment, en 1921, date du procès,
oui,
ne permettent pas de trancher, si j'ose dire, et sans mauvais jeu de mots, définitivement. Néanmoins, Landru sera condamné à mort.
Et oui, et effectivement, et à l'époque, effectivement, vous le disiez, la police scientifique n'existe pas. Elle n'en est vraiment qu'à ses tout petits balbutiement. Landru, qui va être condamné à mort, vous l'avez dit, qui, au cours de ce procès, a nié jusqu'au bout, farouchement, les crimes dont il est accusé. Pourquoi ? Parce qu'il est totalement sûr d'échapper à une condamnation ?
Il a des chances d'échapper à une condamnation, pas de cadavre, pas d'aveu. Mais même après la condamnation, le jury qu'il l'a condamné à mort, signe une lettre au président de la République pour demander sa grâce. C'est étrange. Il pense sans doute pouvoir être gracié. Au pied même de la guillotine, il continue de se dire innocent. C'est un homme mystère, nous dit Jules Belin. On ne comprend pas toujours les motivations de Landru. Est-ce qu'il avait une telle confiance en lui? Est-ce qu'il avait conscience d'entrer dans la légende? Est-ce qu'il en appelait à l'opinion publique?
Il va garder jusqu'au bout ses secrets. En un mot, vraiment, Bruno Follini, pourquoi Landru fascine-t-il encore autant aujourd'hui le public?
C'est un criminel complètement à part. C'est un criminel qui est devenu une sorte d'ogre. Et puis, il a posé la question des rapports entre l'homme et la femme, précisément au moment où tout basculait, où les femmes commençaient à s'émanciper après la Première Guerre mondiale. On a dit qu'il avait remis la femme au foyer. C'était la blague en vogue à l'époque.
C'était un slogan. Effectivement, quand l'aumônier même lui demandera s'il croit en Dieu, au pied de l'échafaud, Landru répondra « Monsieur le curé, je vais mourir et vous, vous jouez aux devinettes ». Merci beaucoup Bruno Follini d'avoir été ce soir l'invité de l'heure du crime. Il faut absolument lire votre Landru, l'élégance assassine, qui paraît demain aux éditions du Rocher. C'est un livre formidable. Tout de suite, on retrouve Eric Silvestro et toute l'équipe des sports pour nous faire vivre le match France-Croatie. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Alphonse. Le crime était parfait en finale de la Coupe du Monde France-Croatie. 4-2.
Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Ouais. Hein, c'est une bonne transition, effectivement.
On espère que ce soir l'équipe de France
ça va marcher.
Merci beaucoup,
je vous souhaite un très bon match.
À demain.
Salut.